Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Émilie.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
Merci, merci beaucoup. Pour la petite blague, je voulais aussi être astrophysicienne, mais je ne savais pas trop ce que c'était quand j'étais petite.
C'est vrai?
Oui, j'aimais beaucoup l'espace. Et puis,
c'est pas
tout
banal.
De suite, mes parents, astrophysicienne, ça peut être la solution.
La solution à quoi?
La solution à ce que tu veux faire plus tard. C'est une question très importante pour mes parents.
Ils me fascinent, les astrophysiciens.
D'ailleurs, oui, moi aussi.
Ben oui, et en même temps, parfois certains deviennent. Enfin, c'est tellement comprendre l'espace, l'infini, revenir au moment du Big Bang. Certains deviennent mystiques et on les comprend parce que finalement, il y a tellement de choses qui nous échappent.
Oui, c'est clair.
Et alors finalement, mais c'est pas banal.
Oui, c'est pas banal.
Une petite fille qui va être astrophysicienne.
C'est ça. Mais j'ai pas du tout été là-dedans finalement.
Mais vous continuez à vous intéresser à l'espace.
Alors, j'aime beaucoup. Je suis pas une acharnée, mais c'est vrai que ça m'intéresse.
Oui, c'est fascinant.
Ouais.
C'est fascinant quand on sait que finalement cette fameuse matière noire qui constitue l'univers, on n'arrive toujours pas à l'observer.
Non, c'est pas grand-chose. Ouais.
Mais vous ne m'appelez pas ce soir pour parler de l'espace.
Exactement, c'est ça. Non, je vous appelle, c'est drôle parce que je vous écoute tous les jours, mais en podcast.
Oui.
Et puis des fois, je me dis, j'aurais pu réagir, ça me parle, etc. Et puis, j'ai jamais l'occasion parce que j'ai une enfant qui dort très mal. Et puis, je me dis à chaque fois, si j'appelle et tout d'un coup, elle se réveille, ça va pas le faire.
Ah oui.
Et là, je suis en vacances, sans enfant. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion.
Ah, vous avez bien fait de profiter alors de ce moment.
C'est ça.
Donc là, vous êtes tranquille pour me parler.
Voilà, tranquille, sans enfant. Et puis, ces quelques jours-là que j'ai pris, c'était aussi pour réfléchir sur moi, sur ma situation, etc. Puis du coup, je repense à tout un tas de choses. Et je vous avais écouté il y a quelques semaines, il y avait une jeune femme qui parlait d'un braquage qu'elle avait vécu.
Oui.
Et puis qui avait été douloureux pour elle et dont elle reparlait beaucoup. Et puis ses collègues lui disaient qu'il fallait un peu qu'elle en parle pas trop ou qu'elle le cache un peu. Et puis ça a un peu fait écho à ce que moi je vis pour une autre situation qui était plutôt une relation amoureuse qui a été très 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 conflictuelle, très chaotique il y a 15 ans maintenant.
Oui.
Et c'est une relation qui a duré 4 ans. J'avais 18 ans à l'époque quand je l'ai connue.
Oui.
Enfin, quand nous sommes mis en couple, j'avais 13 ans quand je l'ai connue, 18 ans quand on s'est mis en couple, lui était plus âgé. Et nous avons eu un petit garçon.
D'accord.
À cette époque-là, et on s'est séparés du coup en 2009, et depuis, il y a une emprise en fait qui perdure, enfin un sentiment de mon côté qui passe pas. En fait, ça a été 4 ans d'enfer. Enfin, j'ai pas souvenir d'une soirée où ça se soit bien passé, où il n'y ait pas eu des insultes, des cris, des menaces, de la violence physique même parfois.
Oui.
C'était plutôt psychologique.
Oui.
Et en fait, depuis ce temps-là, j'ai l'impression de ne pas savoir qui je suis, que tout ce qu'il a pu me dire, finalement, je l'ai intégré, toutes les mauvaises choses. Et dès que j'ai une remarque, une critique, comme ça peut arriver dans la vie courante, hop, ça ressurgit très fort en me disant, tu vois, ça valide ce qu'il disait à l'époque. Alors, je le pense pas dans le sens, c'est lui qui me le dit, mais c'est plutôt un sentiment que moi j'ai de dénigrement envers moi.
Mmh.
Et pour revenir à l'histoire de la jeune femme de son braquage, c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Alors un peu moins maintenant, mais c'est une situation. Enfin voilà, c'est une relation. On est toujours en contact finalement parce qu'on a un enfant. Et finalement il y a toujours quelque chose avec lui, c'est-à-dire qu'on est en conflit juridique depuis 11 ans.
Ah oui.
Donc, mes collègues, j'ai travaillé 4 ans là dans une entreprise où on était très très proches avec mes collègues, et c'est quelque chose quasiment tous les jours où j'en parlais, quoi. Avec le recul, je me dis, mon Dieu, mais
c'est parce que vous vous sentiez envahie, en fait.
Oui.
Si vous en parliez.
J'ai toujours, en fait, comme il arrivait toujours des choses, des messages, des mails, des rendez-vous chez le juge, enfin ce genre de choses.
Mmh.
Finalement, j'ai l'impression que ça n'a jamais cessé finalement parce que même si, alors il a jamais été direct, je pense, avec notre fils, de dire des mauvaises choses sur moi. C'est toujours par sous-entendu. Ouais, bon, ta mère, ou bien ce genre de choses. Et finalement, ben moi, j'ai l'impression de jamais être passée au-delà de cette situation, finalement, où j'ai l'impression, en fait, comme on est en procédure depuis très longtemps, puis qu'il lui est hyper, hyper procédurier, donc toute ma vie est notée. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que j'ai oublié, tout ce que j'ai mal fait, etc., tout est envoyé dans des dossiers chez le juge. Et du coup, bah, j'ai l'impression que j'ai pas le droit à l'erreur. Tout ce que je vais oublier, enfin, pendant des années, la ressortie chez le juge, la banane que j'avais laissée pourrir au fond du sac de notre enfant, qui aurait pu abîmer ses cahiers, enfin, c'est ressorti comme quelque chose de gigantesque. Ouais. Et en fait, ça sème le doute d'avoir autant de choses contre moi, qui sont finalement des petites choses, des banalités, enfin, comme tous les parents peuvent avoir.
Oui.
Et fait, ça attaque, quoi. Ça attaque parce que.
Oui, parce que c'est c'est une forme de harcèlement. Enfin, c'est même pas une forme. On est dans déjà le. C'est très problématique comme ça de ne rien oublier, de tout noter.
Alors il note tout.
Ça fait paranoïaque, je trouve.
Alors il est très très paranoïaque. Il a une personnalité qui est très très paranoïaque. Enfin la psy, enfin parce que on avait vu une pédopsie, elle m'avait dit, enfin tous les professionnels finalement me l'ont dit. Il note tout. En fait, il a pas de vie. C'est là où c'est étonnant, c'est-à-dire que. Moi, objectivement, moi, j'ai réussi par rapport à lui. J'ai repris des études, j'ai eu une autre enfant, je me suis remise en couple, alors même si ça fonctionne pas toujours. Mais j'ai avancé, j'ai déménagé, enfin, j'ai fait plein de choses. Lui, on est toujours au même stade, il travaille toujours dans dans le même domaine qu'il déteste, et puis il écoute toujours la même musique, il a toujours son même entourage, il voit toujours personne. Et finalement, malgré tout ça, enfin tout le temps déjà tout le temps qu'il utilise ça pour sortir ou pour avoir des activités, il l'utilise à noter, à garder des choses contre moi en fait. Et le problème c'est que on est en garde partagée, donc
il a quel âge votre fils maintenant?
Il va avoir 14 ans.
Bon, donc il grandit, ça va un peu vous simplifier les choses là.
Oui et non, parce que j'ai l'impression qu'il est très soumis. Par exemple, son père estime que quand on a un enfant, il doit rester avec nous. Donc les week-ends, les jours de congé, donc ils sont tout le temps ensemble les deux. Il y a personne d'autre et puis il voit pas de copains alors qu'il habite en habitant deux communes différentes et puis lui a ses copains à côté de chez son papa et il les voit pas par exemple.
Il n'ose pas en fait dire à son père qu'il aimerait les voir, enfin tout.
Non.
S'opposer à son père lui l'exposerait finalement à des conflits sans fin. C'est peut-être ça. Pour ça qu'il se soumet aussi.
Puis je pense qu'il a peur en un sens. Il a peur. Ouais.
Il vous en parle par moment, enfin de sa relation avec son père.
Alors, lui dit que tout va bien. C'est là où c'est problématique, c'est que dans les procédures, enfin là, on a encore une énième procédure avec des expertises, des professionnels, enfin la protection des mineurs, etc. Puis, en fait, tout le monde me dit il y a un problème, votre ex. Enfin, il y a même une assistante sociale qui m'a dit votre ex est fou. Et en fait, il y a rien qui est fait. Et c'est pour ça, moi, j'ai l'impression d'être un peu, je passe pour la dingue, vraiment.
Pourquoi?
Passe pour celle qui est procédurière. Je passe pour celle qui imagine des choses. Enfin, là, par exemple, mon fils m'a avoué l'année dernière que son père buvait. Mmh. Il avait un passé avec l'alcool, mais il avait arrêté. Puis là, il m'a avoué donc un peu comme ça, sans fin de soirée, devant un thé, en me disant « voilà, papa, ce qui arrive ». Et puis, finalement, ça a un peu fait plouf parce que mon ex m'a dit « vous vous rendez compte, celle qui invente, elle imagine des choses, il a fourni des certificats de la part de son médecin ». Et puis en fait, c'est moi qui passe pour celle qui invente des choses dans le but de l'accuser, puis d'obtenir la garde et tout ça. Donc je passe pour celle qui est procédurière.
Mais auprès de qui vous passez pour celle qui est procédurière?
Alors, on est en médiation.
Oui.
Donc on est en médiation auprès d'un centre spécialisé dans les violences. un département de l'hôpital qui est spécialisé là-dedans. Et les médiatrices, alors elles me renvoyaient, enfin, je pense que j'interprétais beaucoup, mais elles me renvoyaient pas mal ça. Ou bon ben j'exagère, vous êtes pas médecin madame pour juger de l'alcoolisme de monsieur, enfin des petites piques comme ça que moi je prenais vraiment très très fort.
Oui, je comprends.
Et puis ben auprès de la justice parce qu'il y a des avocats, il y a la juge. Et puis j'ai l'impression, voilà, je dis des choses, mais il y a l'assistante sociale, donc je dis à mon avocat, l'assistante sociale, elle a dit ci et ça, donc on se dit bon bah ça y est, on va enfin avoir un témoignage. Et puis devant le juge, elle dit tout le contraire en disant bon, les parents s'entendent pas très bien, mais voilà. Et en fait, j'ai l'impression que de mon côté, il y a plein de choses. Je me dis bon, ça y est, cette fois, peut-être qu'on va comprendre ce qui se passe. Et puis ça fait plouf.
Et pourquoi êtes-vous en procédure depuis toutes ces années, finalement?
Alors, en fait, la première, c'est lui qui demandait la garde, parce que j'habite à l'étranger, puis je voulais rentrer en France, mais qui est pas très loin. Et bah, lui s'est opposé, donc il a fait une demande de garde.
Oui, mais il était petit à ce moment-là, votre
fils. Oui, il avait 2 ans.
Oui,
il avait 2 ans. Oui. Et du coup, il a obtenu la garde partagée. Et puis on s'est entendu, c'est ça aussi où moi j'ai été relativement naïve, c'est que j'ai accepté en me disant non mais c'est pas parce qu'on a été qu'il a été un mauvais compagnon qu'il va être un mauvais père.
Oui, mais c'était louable de votre part, parce que parfois ça arrive, c'est vrai, certains c'est sont ça. Des mauvais compagnons mais peuvent être des pères.
C'est ça, moi j'ai toujours voulu, c'est là où c'est le pire, c'est qu'au départ en fait il ne le prenait même pas notre fils, et puis c'est moi qui ai insisté au départ en lui disant c'est important que tu le vois. D'accord. Et puis au final il l'a pris du jour au lendemain, parce qu'on, enfin bon,
c'est toute une histoire, mais... j'imagine, mais pourquoi ça continue aujourd'hui, puisque sur un enfant petit, effectivement s'il demandait la garde, qu'il y ait eu une bataille juridique autour de ça, mais aujourd'hui il a 14 ans,
aujourd'hui, pourquoi c'est moi
sur
qui demande la garde.
D'accord.
Parce qu'en fait, tout est problématique. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'entendre quand même pour un minimum de choses, pour l'école, pour tout ça. Et en fait, il fait obstruction à tout.
Et oui.
Et puis si je dis quelque chose, bah, il va dire le contraire. Là, par exemple, cette semaine, notre fils est en quarantaine, donc il n'a pas accès à ses devoirs. Mm-hmm. Puis je dis, bah, écoute, il faudra appeler l'école. Moi, je te propose, je contacte. Non, 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 bah, tant pis, c'est pas grave. Il fera la semaine prochaine, alors que c'est la semaine de vacances, sur mes vacances. Et puis, en fait, tout est comme ça, en fait.
Mais c'est infernal pour vous. Parce qu'en fait, vous êtes séparés depuis
11 ans.
Oui, 11 ans, mais... oui, mais c'est comme si vous n'étiez pas séparés avec cette bataille juridique et tous ces liens. Donc, je comprends que vous vous sentiez envahie. Parce que, vous me dites que vous faites une médiation. Qui l'a demandé, cette médiation ?
C'est la justice. En fait, la troisième procédure là, qui a été, que j'ai lancée, elle date d'il y a 4 ans. Et ça fait 4 ans que ça traîne.
Vous l'avez lancée dans quel but, cette procédure ?
Dans le but, justement, d'avoir la garde.
Mais la garde entière, c'est ça ?
Oui, avec un droit de visite élargi. Je ne voulais pas, évidemment, le couper de son père.
Vous êtes toujours en garde partagée, là ?
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qu'il en dit, votre fils ? Parce que, vous voyez, quand je vous ai dit, il grandit, ça va vous faciliter les choses, à un moment, il va pouvoir aussi exprimer des choses, même si c'est compliqué pour lui. Mais ça devient un adolescent, donc peut-être qu'à un moment, de lui-même, il va dire, au fond, ce qu'il veut.
Oui, non, il est très, très docile, notre fils. Il a toujours été... voilà, un peu à s'écraser. Enfin, c'est un enfant qui est très, très gentil, très doux. Et voilà, il dit, bah, c'est comme ça, mes parents, ils s'entendent pas. Et puis,
oui, il a toujours connu cela. Mm-mm. Des parents en conflit autour de lui. Ça doit être pesant aussi, ça, pour lui.
Oui.
Donc, il n'ose pas, au fond, il ne peut pas s'affirmer. Et peut-être, d'après ce que vous me dites de son père, ou vous supposez qu'il peut avoir peur de ses excès ou de ses obsessions, ou s'opposer à lui, ça lui demanderait une énergie folle. Enfin...
Je pense qu'il y a, il y a quelque chose comme ça.
Mais par rapport à vous, parce que, vu ce que vous me dites de la personnalité de votre ex-compagnon, d'ailleurs, même une assistante sociale vous a dit il est fou. Enfin, il semble avoir quand même des traits de personnalité très problématiques. Même s'il n'est pas totalement dans la paranoïa, il y a quand même ce côté très procédurier. Et, Et en fait, avec ce type de personnalité, les médiations, ça mène à rien. Enfin,
je sais.
Il n'y a pas de remise en question.
C'est oui. ça. En fait, oui. il l'utilise contre moi. Et puis,
c'est pour ça, je trouve que ouais. vous vous épuisez. Enfin, vous voyez, il y a des personnalités comme ça même qui ne consulteront jamais. Parce qu'au fond, ils veulent toujours avoir le dernier mot et toujours avoir raison.
Bah, c'est ça. De toute façon, parce qu'on a eu plusieurs expertises, je vais devenir une reine de la procédure. On a eu plusieurs expertises pédopsychiatriques par des cabinets indépendants qui font tout ça.
Oui.
Et où il a été souligné ces traits de personnalité-là. Disant que voilà, il l'enjoignait à consulter pour lui dépasser, oui. Et puis qu'il mettait de côté, enfin qu'il ne supportait pas mon rôle de mère, qu'il niait mon rôle de mère. Il a toujours été. En fait, pour vous expliquer, quand on était ensemble, on a eu notre fils très rapidement. Mais les premiers temps, excusez-moi du terme, j'étais la salope, et ensuite je suis devenue la mauvaise mère. Et en fait, tout tournait autour de ça, c'est-à-dire que ben, notre fils était devenu sa nouvelle obsession. Mmh. Et puis, je devais lui dire combien de biberons il avait pris, combien de ci, combien de ça. Et puis, alors qu'il ne s'en occupait pas, c'est ça qui était
oui,
très
étonnant. Oui, c'est ça.
Et en fait, les années ont continué et puis ça a été comme ça. Et c'est-à-dire que je recevais des mails, alors tous les lundis, je recevais la liste des choses que j'avais mal faites.
C'est infernal. Alors,
j'avais
c'est
des infernal. Chaussettes qui étaient dépareillées ou des choses relativement
mal. Oui, mais c'est maladif. Enfin, vous voyez, c'est maladif. Et ce qui est maladif, c'est que, enfin, on voit bien, il ne lâche rien depuis des années.
Ouais.
Et vous, c'est une spirale terrible. Et comment pourriez-vous prendre de la distance, au fond ? Parce qu'il ne lâchera pas, lui. Et qu'est-ce que vous attendez ? Enfin, pourquoi vous ? Est-ce que vous, alors, vous avez un autre enfant, si je comprends bien ?
Oui, j'ai une petite fille de 4 ans.
C'est elle qui dort
pas
bien,
là.
D'accord.
C'est
vous êtes avec son père ?
Alors non, on s'est séparés.
D'accord.
On s'est séparés. En fait, on s'est séparés quand j'ai découvert ma grossesse. Enfin, avant de découvrir ma grossesse, on était séparés. Puis on a retenté, mais
oui.
Ça n'a pas été concluant. Mais du coup, en fait, c'est un peu le comportement. Enfin, ma fille a des comportements assez compliqués. Puis ça révèle un peu finalement un peu tout ça dans le sens où on me dit maintenant que je suis trop intellectuelle. Enfin, tout est très intellectualisé chez moi. Et il n'y a pas de place pour les émotions.
Qui vous dit ça ?
Alors, les professionnels que j'ai été consultée pour ma fille, pédopsie, enfin, ce genre de choses. Et ce qui est vrai, en fait, pendant longtemps, pour moi, déjà, les émotions, c'était quelque chose de virtuel, de très abstrait dans ma famille. Enfin, c'est pas des choses qui étaient très... c'est très exprimé. Alors, ma mère, oui, justement, mais dans le beaucoup trop, mon père, pas du tout. Enfin, puis, c'est pas des choses qui ont été verbalisées, du coup, c'est un peu abstrait pour moi. Et maintenant, en fait, je me rends compte que, effectivement, je suis dans le contrôle, je suis dans l'ultra-contrôle de tout, mais en lien aussi avec.
Oui, avec ce lien très, très problématique avec cet
c'est
homme.
Ça.
Mais lui aussi est dans l'ultra-contrôle.
Oui.
Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire. Enfin, on voit bien, vous voyez, vous faire des mails récapitulatifs, de chaussettes dépareillées, de bananes qui a pourri au fond d'un cartable. Enfin, il y a des choses, c'est fou, au fond, c'est fou.
Ouais.
Et le problème, c'est que lui ne peut pas lâcher en raison de sa personnalité. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous ne lâchez pas ?
Bah, j'ai peur de m'effondrer si...
De
si
vous effondrer de comment
à tous les niveaux, psychologiquement, je pense, ouais. Parce que je tiens, en fait, tout le monde me dit, mais c'est étonnant, tu payes pas de mine, entre guillemets, et finalement, tu tiens depuis toutes ces années.
Oui,
alors,
par la colère, au fond, par le conflit.
Oui, et puis je tiens un peu tout le monde finalement, parce que par exemple le père de ma fille, c'était ce côté maternant qu'il a aimé chez moi et qui me convenait de lui transmettre. Puis tout le monde un peu s'agglutine comme ça parce que je tiens. Et puis finalement je me rends compte maintenant et puis que je j'arrive plus.
Mais c'est bien que vous n'y arriviez plus, parce que vous tenez, mais à quel prix pour vous ?
C'est ça.
Parce que vous me dites, on vous parle, enfin on vous a dit que vous aviez du mal à exprimer vos émotions, et en même temps, vous me dites que le père de votre fille aimait chez vous ce côté maternant, donc que vous avez. Mais là, vous êtes dans une telle bataille où, au fond, à un moment, il faut savoir lâcher, parce que vous êtes face à quelqu'un qui ne lâchera pas et qui, malheureusement, empiète sur votre vie, ne vous permet... Il, par son côté procédurier, il reste omniprésent.
Ouais.
Et c'est ça qui est problématique. Alors j'entends, et lui continuera à envoyer des mails, mais aujourd'hui, là où il y a quand même quelque chose, moi, que j'entrevois comme positif, c'est que le fait que votre fils devienne adolescent, et là où enfant, il a malheureusement toujours connu ce lien-là conflictuel entre vous deux, il a été pris aussi dans cette histoire. Adolescent, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir s'exprimer, où il aura peut-être, il trouvera la force à un moment de s'opposer, si ce n'est directement avec son père, mais de dire non, c'est plus possible, quand j'y vais, je ne peux pas voir mes copains, et ce face-à-face ne me convient plus. Est-ce qu'il est suivi, votre fils ? Parce que vous me parlez
non,
de rapport de...
Son père s'y oppose.
Son père s'y oppose ?
Oui.
Oui, mais...
En fait, on a des expertises régulières.
Oui, mais ça ne va pas, ça. Vous n'allez pas être expertisé tout au long de votre vie. Enfin,
c'est ça.
C'est pas une vie, ça.
Mais en fait, moi, ce qui m'embête, là, vous disiez que mon fils s'opposerait du fait de ne pas avoir ses copains, par exemple. Mais finalement, c'est quelque chose qu'il a intériorisé. C'est là où, moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire que, il dit même, alors il y a des moments où il me dit, j'aimerais aller voir les copains. Un petit peu par petites touches. Puis j'ai l'impression qu'en fait, c'est moi qui tient le truc, qui garde le lien, qui essaye de faire des choses, qui le pousse à sortir et tout ça. Mais que si moi j'étais pas là, il y aurait rien. Enfin, il regarderait la télé toute la journée. Chez son père, c'est ce qu'il fait finalement. Puis je pense qu'il n'éprouve même pas le besoin chez son père.
Parce qu'il est habitué.
Ouais.
Chez son père, ça se passe comme ça. Quand vous dites, vous avez le sentiment que c'est vous qui gardez le lien avec vous, il n'exprime pas le besoin d'aller voir ses copains de lui-même ?
Un petit peu, mais c'est... Voilà, c'est comme ça. Je le sens blasé, finalement. Il me dit, c'est comme ça.
Oui, mais ce qui est terrible, c'est qu'au fond, cette guerre que vous menez, que vous continuez à mener avec son père, porte sur lui. Et lui, là, il est écrasé. Il est passif. Il est... Enfin, et finalement, vous, ça vous fait du mal, et ça ne fait pas du bien à votre fils.
Ouais.
Donc, à un moment, enfin, vous n'allez pas, jusqu'à ses 18 ans, être enchaîné, les batailles juridiques, les expertises psychiatriques, ça n'a plus de sens, tout ça.
Mais c'est ça, mais je me dis que si je lâche, en fait, parce que ce qu'il y a, c'est que là, ça, par exemple, ça fait 4 ans, donc on est en procédure, et le fait qu'il y ait la justice, puis là, le fait qu'il y ait une expertise qui se profile, ça le calme, il est d'accord avec tout. Et puis, finalement, en fait, moi, je suis repartie là, en procédure la deuxième fois, parce que finalement, il se croit... au-dessus de tout, finalement, il dit « Ah, mais moi, je m'en fiche, t'as qu'à repartir en procédure. » Donc, il fait ce qu'il veut.
Émilie, le problème, c'est que vous pensez contrôler, vous ne contrôlez rien, parce que c'est cet homme qui contrôle votre vie et celle de votre fils.
Ouais.
Vous suivez, en fait.
Ouais.
Vous êtes prisonnière de ça. Mais il faut y travailler. Je crois que vous êtes suivie.
Oui, je suis suivie, mais j'ai l'impression de tourner en rond.
Parce qu'effectivement, si vous ne lâchez pas, si vous ne décidez pas à un moment, et justement parce qu'aujourd'hui, votre fils est en âge de comprendre, et peut-être en lui expliquant et en vous faisant aider par quelqu'un, peut-être un spécialiste, ou si vous éprouvez le besoin, si vous avez du mal à en parler directement avec votre fils, peut-être en lui disant, écoute... Je n'ai plus envie de batailler comme ça. Parce que finalement, ton père est comme ça, il ne peut rien lâcher, il ne peut pas faire autrement. Il ne s'agit pas de démolir l'image de son père, mais dire, ton père, il ne va pas bien, il ne peut rien lâcher, même si on est séparés, sa façon à lui de maintenir le lien avec moi, c'est à travers une bataille juridique, mais moi je n'ai plus envie de ça. Je ne veux plus aujourd'hui, parce que ça n'apporte rien. Et en tout cas, je vois bien que ça ne te fait pas de bien à toi, et que tu deviens en âge de pouvoir aussi exprimer des choses, et tu dois faire avec ce père-là, qui est en difficulté, mais à un moment, vous, il faut que vous acceptiez aussi, cet homme vous a fait du mal, cette relation vous a fait du mal. Cette relation faite de dénigrement, de... vous avez été rabaissé, humilié, et peut-être qu'à travers cette bataille juridique, vous espérez, je ne sais pas, au fond de vous, être reconnu dans ce que vous avez enduré.
Je me suis un peu questionnée, mais finalement, ça n'a jamais été mis en... Ça n'a jamais été dit, finalement. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits, comme c'est uniquement pour notre fils...
Mais c'est
cette
ça.
Violence n'a pas été dite
et
clairement.
Et oui, Émilie, mais bien sûr, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. C'est-à-dire que les professionnels que vous rencontrez, juges, travailleurs sociaux, experts, en fait, eux, le juge aux affaires familiales, lui, il n'est pas là pour dans la dimension conjugale. Ils ne sont pas là dans cette dimension conjugale et de ce que vous avez vécu et plutôt subi. Bon, la violence de cet homme, particulièrement sa violence psychologique. Eux, ils sont là pour, par rapport à ce que vous amenez, essayer de trouver un terrain d'entente autour de l'éducation de votre fils, et notamment de la garde de votre fils. Donc, ils ne vont pas dire... le père a tort, la mère a raison, ou la mère a tort, le père a raison. Enfin, vous voyez, ils essayent toujours de trouver une forme de compromis. D'où les médiations, c'est-à-dire que quand ils sont même démunis, les juges ne sont pas là pour faire de la psychologie, c'est pas leur métier, mais ils doivent en tenir compte, et donc ils travaillent avec les travailleurs sociaux, des experts psychiatres, et pour essayer peut-être de mettre fin à la guerre juridique, propose des médiations. Mais, alors, vous pourrez en reparler avec le thérapeute qui vous suit. Il y a des personnalités, et encore une fois, je ne connais pas votre ex, mais ce que vous me dites, et vous me dites que beaucoup d'experts évoquaient aussi une dimension des traits de personnalité paranoïaque chez lui, me dites-vous... il n'y a pas de médiation possible. Ouais, parce qu'il n'y a pas de remise en question. Oui, mais Émilie, vous pouvez en faire 10.
C'est ça, mais en fait... C'est
et
la
vous, vous allez...
Et moi, non. Je me sens bloquée avec ça.
Émilie, je ne sais pas comment vous le dire, parce qu'il va falloir lâcher. En tout cas, j'entends que pour le moment, vous ne pouvez pas. Et je pense que... justement, parler à votre thérapeute de cette peur de l'effondrement. Parce qu'au fond, peut-être que même dans le cadre de votre thérapie, vous parlez plus, parce que ça vous bouffe, pardonnez-moi de vous le dire de façon familière, de c'est cette clair. Guerre depuis 11 ans, engagée avec le père de votre fils, finalement, peut-être plus que de vous en tant que femme et de ce que vous avez subi. Or, c'est cette parole-là qui a besoin d'être entendue, et c'est vous qui aussi avez besoin d'être réparée sur ce plan-là.
Ouais. Non, c'est vrai que finalement, au début, j'en parle, enfin, parce que j'ai changé de thérapeute il y a quelques années. Au début, j'en ai pas mal parlé, puis finalement, j'avais le sentiment que, enfin, que c'était pas, voilà, c'était passé, que c'était pas si grave. Mais
si, ça a des conséquences. Et c'est pas passé, malheureusement, parce que cet homme a le contrôle, au fond, de votre vie. Il a un pouvoir immense sur votre vie, celui de vous nuire, de continuer à vouloir vous nuire. Et vous, vous restez en position défensive. Ce que je comprends, parce que vous avez subi beaucoup. Et beaucoup de choses terribles. Donc, vous voulez vous défendre et vous voulez que l'on vous entende. Mais via votre fils, c'est cause perdue et votre fils aussi est pris dans ce jeu relationnel terrible pour lui, qui ne l'aide pas, au fond, à s'épanouir. On ne l'entend pas, lui, dans cette histoire. Non, il a du mal à se faire entendre. Donc, à un moment, je pense qu'il vous serait beaucoup plus profitable de votre côté, en thérapie, de parler de ce que vous avez enduré, des blessures qui sont les vôtres, pour à un moment vous apaiser et enfin vous dire que cet homme, vous ne le changerez pas. Et que là où, quand votre fils était petit, c'était terrible et que vous avez bien fait de vous battre pour ne pas lui laisser tous les pouvoirs, mais qu'aujourd'hui, votre fils grandissant va pouvoir, il faut compter aussi sur lui à un moment et lui donner peut-être les moyens de pouvoir un peu s'exprimer parce qu'il aime ce père, même si ce père est malade, mais il l'aime et donc il ne veut pas s'opposer à lui. Peut-être que lui aurait besoin d'un soutien et d'en parler, parce qu'après tout, même si son père s'y oppose à 14 ans, il pourrait dire oui, au fond, moi ça me ferait du bien d'aller parler. En tout cas, vous, quand vous aurez parlé dans votre thérapie, je pense qu'il va falloir commencer à dire à votre fils, j'arrête moi, j'arrête, parce que cette guerre ne mène à rien, au fond nous fait du mal, et j'ai compris que ton père, je ne pouvais pas le changer, mais c'est ton père. En tout cas, moi, je ne veux plus continuer à me battre comme ça. Mais il faut que vous travailliez là-dessus, vraiment. Ouais. Je vais vous lire quelques réactions. Il y a Sergio qui dit il est malade, le genre de personne qui s'épanouit dans le conflit. Et ces gens-là vous tirent vers le bas. Même si c'est compliqué, il faut que vous preniez de la distance. Il y a Stéphane qui dit, il se comporte comme un dictateur, cet homme, et il faut que vous fassiez, vous, votre révolution. Il y a Daniel qui dit, votre histoire réelle me fait penser au film de vampires de ma jeunesse. Et c'est très bien vu. Elle dit, vous êtes vampirisé. Et au fond, ça vous nourrit, vous êtes en fait sous l'emprise. Voyez, vous n'avez pas le contrôle.
J'ai l'impression d'avoir un poison qui est activé.
Mais il faut arrêter de vous l'inoculer.
Ouais.
Hein, il faut parler de vous et de votre souffrance. Ouais. Et ça va vous amener à prendre de la distance. Oui, il va continuer à vous envoyer des mails, oui. Mais simplement, vous, il faut que ça vous atteigne moins. Et que vous vous sentiez moins remise en question dans ce que vous êtes en tant que femme et surtout en tant que mère. Parce qu'il vous attaque là-dessus, ce qui forcément vous fait mal. Et vous persuadez que oui, vous êtes une bonne mère. Quelques réactions avant qu'on se quitte, Paul, peut-être sur notre page Facebook.
Alexandre, qui vous dit « Tenez bon, Émilie, les piques de votre ex ne doivent pas nuire à la relation que vous entretenez avec votre fils. Détachez-vous de ce conflit, prenez du recul et ne le laissez pas vous pourrir la vie tout en préservant l'équilibre de votre petit. » Et c'est ce que dit aussi Muriel en disant que vous ne devez pas avoir peur. Votre cœur est plein d'amour pour vos enfants. Oui. On peut le sentir très fort même. Si vous arriviez un tout petit peu à lâcher prise, vous gagneriez énormément. Courage à vous, super maman.
Merci.
Vous voyez, les messages vous encouragent. Vous gagneriez en apaisement et en sérénité. Et là, vous êtes en train de vous épuiser.
Ouais.
Voyez. Et je comprends votre peur de l'effondrement, parce que quand on mène une bataille, on se dit, et alors, si en plus, qu'est-ce qui va se passer après? Le vide. Mais vous n'êtes pas vide, Émilie. Ouais. Il y a plein de choses à dire. Mais cette fois-ci, en parlant vraiment de vous.
Ouais.
Et dans le cadre de votre thérapie, vous pouvez le faire. Parce qu'au fond, en vous livrant, en vous jetant à corps perdu dans cette bataille, c'est une façon encore de ne pas parler de vous et de vous oublier. Attention à vous.
Ouais. Bon. Je vous remercie beaucoup.
Bon courage.
Merci.
Bon courage, Émilie. Au revoir.
Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci.
RTL. Jusqu'à 12h30. Caroline Dublanche. Parlons-nous.